Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Ne lui dites pas qu'elle est discrète et lumineuse, elle trouverait que vous manquez d'imagination. Pourtant, elle irradie comme personne, Isabelle Carré. Lui, il avoue être quelqu'un de compliqué qui cultive la simplicité. L'ex-inconnu, reconnu pour ses rôles dramatiques. Bernard Campan, bien sûr. Alors, ensemble, ils rejouent au Théâtre de la Renaissance, à Paris, la pièce qui a obtenu en 2019 le Molière de la meilleure comédie, La Dégustation, signée Yvan Calberac. Voilà, avouez que ça méritait bien une balade, tous ensemble, pendant une heure, pour se dire des choses fortes sur l'amour, le destin, le théâtre, la vie qui va. Voilà, bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Et bonjour Bernard Campan.
Bonjour Isabelle et Isabelle.
Voilà, exactement. Alors la complicité qui vous lie, tous les deux, elle défie le temps, car il y a presque 20 ans, vous portiez ensemble ce bijou de film, Ce souvenir des belles choses, signé Zabou Breitman, dans lequel vous incarniez deux amnésiques qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et puis aujourd'hui, c'est le théâtre qui vous réunit avec une comédie feel-good, dont l'univers, moi, me fait penser un peu à celui de Frank Capra, où le merveilleux peut jaillir même des situations dramatiques. En fait, il y a peu de comédies contemporaines écrites à cette encre-là, avec ces ressorts-là.
Ah,
non ?
Complètement. Ah oui. Moi, ce qui me plaît dans l'humour d'Yvan Calberac, c'est qu'il rassemble. C'est pas un humour qui tape sur telle ou telle catégorie socio-professionnelle, sur telle personne, telle communauté. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on sort de là, on a envie de se serrer dans les bras, de se réchauffer les uns aux autres, et puis d'aller boire un bon petit coup de rouge.
Je confirme, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en sortant de la pièce. Bon, je viens de parler de Frank Capra, mais j'aurais pu citer l'univers d'Amélie Poulain, par exemple, de Jean-Pierre Jeunet.
Ah oui.
La dégustation, c'est vraiment une comédie qui nous pousse à croire qu'on peut réenchanter le monde. Mais alors, je dis ça, il est temps que l'un des deux se livre à l'exercice du pitch. C'est pas moi qui m'y colle.
Allez Bernard, on t'a pas encore entendu.
Oh le pitch. Je suis pas fan moi du pitch, mais bon, on va commencer, désolé, par Jacques, qui est un caviste, un peu, qui s'enferme, on va dire, dans sa boutique et dans l'alcool, suite à une blessure qu'on découvrira au cours de la pièce, et qui rencontre donc Hortense, qui vient acheter du vin, qui est une femme solitaire aussi, qui est en mal d'enfant, et tous les deux vont avoir beaucoup de mal à se retrouver, même si Hortense y met du sien.
Beaucoup du sien, oui.
Et heureusement, ils arriveront à se retrouver grâce à
un troisième larron.
Un troisième personnage qui sort de prison, un jeune qui va procurer l'étincelle, qui va faire que le couple...
Qui va chambouler le destin.
Voilà.
Alors Bernard Campan, effectivement, dans cette pièce... vous jouez un personnage bourru sur la défensive qui manie un humour à froid, très pince sans rire. Mais bien que vous soyez dans le registre de la gravité, car vous cachez un secret, l'auteur, Yvan Calberac, jubile, il le dit, il le répète, il jubile de la manière dont vous bonifiez la drôlerie des répliques. Cette façon de provoquer les rires, on a l'impression que, en fait, elle n'a pas grand-chose à voir avec celle que vous pratiquiez dans votre première vie avec les inconnus.
C'est différent, là, on s'appuie vraiment sur dans les sketchs inconnus, il y avait le point commun, c'est que c'était des petites scènes de théâtre, il y avait des situations finalement. Donc là, on est au théâtre, vraiment, on a des situations et on suit le texte, enfin, on se laisse porter par le texte, par les partenaires et puis le metteur en scène et j'ai pas trop d'explications.
En tout cas, ça fonctionne. Pourquoi dites-vous que cette pièce, La Dégustation, vous réconcilie avec votre âge ?
Ah ben c'est parce que j'ai 63 ans et j'ai l'impression vraiment d'avoir l'âge du personnage ou que le personnage a mon âge. Souvent, on triche un peu au théâtre, encore plus qu'au cinéma, mais même au cinéma, on rajeunit toujours un peu les personnages, ils ont toujours 5 ans de moins sur le scénario, je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que j'ai bien mon âge, quoi. C'est sa deuxième chance, c'est Hortense, et à 50 ans, ça sonnait pas pareil qu'à 63 ans, quoi.
Et puis vous dites aussi d'autres choses, comme par exemple, j'ai appris beaucoup auprès d'Isabelle Carré.
J'apprends toujours beaucoup auprès d'Isabelle.
Allons bon.
Tu sais bien, Isabelle, c'est une extraordinaire comédienne. Je la regarde jouer, je la regarde vivre le personnage. Je regarde tous les soirs l'émotion qui la traverse. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de pureté dans ses intentions et toujours la fraîcheur, toujours là dans ses intentions. C'est important, l'intention au théâtre. Vraiment, une phrase, elle est portée par vraiment une intention. Et je trouve qu'avec Isabelle, c'est toujours neuf. c'est toujours frais. C'est... Donc ça, c'est une école, on apprend au contact des autres.
Alors Isabelle Carré, ce personnage de jeune femme solitaire qui veut donner le meilleur d'elle-même en aidant les SDF, mais qui n'est dupe de rien, elle est fine mouche avec une bonne dose de fantaisie, voire un grain de folie, malgré ses manières de dame catéchèse. Eh ben, ce personnage, il n'est pas si éloigné de vous que ça.
Ah, je ne sais pas.
Parce qu'on parle toujours de votre visage angélique et puis de votre délicatesse. Et puis,
oui, j'aime bien les personnages qui sont autre chose que ce qu'ils paraissent, ça c'est sûr. Et ça, ça me correspond. J'aime bien les personnages aussi qui ne sont pas qu'une couleur. Et ça, c'est plutôt rare, en fait. Souvent, on vous offre, un metteur en scène vous permet d'être dans une couleur et puis la couleur évolue. Mmh. Mais finalement, voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette phrase de Pirandello qui dit « on n'est pas un, on est mille, mille. ». Et moi, je les ressens, ces mille possibilités en moi. Et quand on me les offre sur scène, alors de les jouer sur scène, ça, c'est vrai que c'est plus proche de la réalité, donc c'est plus intéressant, évidemment.
Alors, le casting de la dégustation, il est impeccable. Olivier Clavry, dans le rôle du docteur, il est patent de finesse. Éric Vielard, qui joue le libraire. Et Mounir Amamra, dans le rôle du jeune délinquant en liberté conditionnelle qui va rebattre les cartes. C'est une révélation, Mounir.
Ah oui, alors.
Oui. Ben pour nous en tout cas, non mais pour tout le monde. Hein, c'est
sa première fois dans une pièce au théâtre, ouais. En tout cas c'était la première fois qu'il jouait un rôle comme celui-là au théâtre et aussi longtemps, parce que ça fait quand même voilà, quelques représentations déjà qu'on a jouées, puisque la pièce avait gagné le Molière de la meilleure
c'est
comédie
ça,
en 2019.
Vous la jouiez déjà ensemble avec toute cette distribution-là en 2019.
On n'a jamais changé et ça c'est très rare. Ouais. Parce qu'on n'a jamais changé non plus au cinéma.
Voilà, il faut en parler. Ouais. Parce que Yvan Calberac, donc l'auteur de La Dégultation, on le sait, il alterne sans cesse entre le théâtre et le cinéma. Il met en scène ses pièces, puis on fait des films qu'il réalise. Parfois même, il écrit un roman comme Venise n'est pas en Italie, qui devient une pièce, puis un film. Ouais. Et puis là, une fois encore, il n'a pas dérogé. Cette pièce, donc La Dégultation, il en a fait un film avec vous deux, qui va sortir en 2022.
Avec nous tous, en fait.
Avec... Oui. Absolument toute l'équipe.
Ouais, les cinq. Ouais,
on ne voulait pas se quitter, en fait, on ne veut pas se quitter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a repris la pièce. Parce qu'en fait, on avait repris la pièce en septembre 2020. Et puis, on a été arrêtés d'une façon très brutale. C'est-à-dire que on a joué le soir, c'était un samedi soir, si mes souvenirs sont bons. Mmh. On est rentré chez nous et on a reçu un coup de fil nous disant vous ne pourrez plus revenir. Pourrez plus revenir parce qu'il y a un nouveau confinement. Et voilà. On avait tous laissé nos affaires dans la loge. Et ça nous a tellement traumatisés.
De ne pas pouvoir se dire au revoir, on est resté en suspens comme ça, ça a été un traumatisme. Ouais,
c'est qu'on vrai. Est très très heureux que le théâtre de la Renaissance, qui n'a jamais si bien porté son nom, nous accueille à nouveau et qu'on puisse réparer cette petite...
Mais il y a une double réparation.
Oui, il y a une double réparation.
Vous l'avez tourné donc pour le cinéma même temps, ce texte. Oui. Et alors, bien que l'histoire soit la même... je voudrais savoir, est-ce qu'on incarne de la même façon devant des caméras des personnages qu'on a joués sur scène ?
Alors, c'est toujours subtil, c'est assez complexe. Non, c'est pas la... je dirais que c'est pas la même chose. On tourne autre chose que... J'ai eu l'impression, moi, de tourner autre chose.
C'est vrai ?
Oui, tout à fait. Alors, on voyait bien les points communs, mais je repense à ça justement parce qu'on a eu un petit fou rire avec Isabelle quand on fait la danse, quand ils dansent tous les deux. Oui. Parce qu'on se disait que pour le film, la danse était tout à fait différente. C'était autre chose. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas s'en inspirer, sauf qu'on n'a pas répété. Alors, on essayait des petites choses comme ça, ça nous a donné envie de rire. Mais le film est forcément différent de la pièce. Je dirais moins de gags de toute façon, plus d'émotions, je pense, on vibrera plus et beaucoup de subtilité.
Alors ce qui n'est pas courant, c'est que la version, vous allez me dire si je me trompe, mais la version actuelle de la pièce que vous prenez donc au Théâtre de la Renaissance à Paris a été enrichie de scènes inédites du film. C'est donc une version augmentée que vous jouez en ce moment ?
Pas vraiment de scènes inédites, mais des répliques en fait.
Des qui viennent truffer comme ça le texte.
Des répliques qu'on avait dans
qui
le film.
Qui n'existaient pas en 2019.
Non, voilà, oui.
Et je dois dire qu'il y a un élément qui n'est pas du tout négligeable. C'est quand le rideau se lève, en fait, on est franchement impressionné par le décor qu'on découvre, car on plonge dans la boutique tapissée de chêne clair d'un caviste à l'ancienne, avec partout sur les étagères des bouteilles de grands vins rutilantes. En fait, c'est un décor qui est très fort, qui est élégant, comme pourrait l'être, par exemple, un fumoir art déco.
Alors ça, j'ai pas
pensé. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu, oui, c'est un petit, c'est
de la salle.
Quelque chose d'un peu
art
déco dans
le. C'est chaud,
quoi. Oui,
c'est
absolument.
Très chaleureux, oui, bien sûr.
Ah, on aime notre décor, oui. Ça, c'est sûr qu'on était heureux tous de le retrouver et on a vraiment un bel espace pour jouer. Et puis, on est ensemble, quoi.
Oui.
On peut communier, on est ensemble. Ouais.
Bon, vous l'avez compris, cette émission va être vraiment chargée de d'ondes positives. On s'interrompt vraiment un court instant et on trouve tout de suite Isabelle Carré et Bernard Campan.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Un conseil d'amis, si vous êtes parisien ou si vous passez par Paris, allez au Théâtre de la Renaissance applaudir Isabelle Carré et Bernard Campan, mes invités dans La Dégustation, une pièce d'Yvan Calberac qui a obtenu en 2019 le Molière de la meilleure comédie et qu'ils ont la bonne idée de reprendre en ce moment. Donc, Bernard Campan, si vous deviez vous confier à Isabelle Carré sur votre enfance, vous lui diriez quoi ?
C'est vaste, hein.
L'enfance, en un mot.
Il s'en passe.
Vous aborderiez comment le sujet ?
Je sais pas. J'étais à la fois introverti et extraverti, par exemple.
Par exemple.
Voilà, j'étais à la fois très très timide, mais en même temps, je voulais exister, donc j'étais capable des pires conneries.
Alors moi, je pourrais préciser, par exemple, que vos parents étaient tous deux professeurs, votre père était chevalier des arts et lettres. La maison résonnait essentiellement des œuvres de Jean-Sébastien Bach, que votre père jouait au piano. Et puis les vacances, en fait, elles consistaient souvent à aller visiter des musées en Italie.
Oui.
Hein, tout ça, c'est vrai. Ouais. Donc, pour exister, en fait, vous avez pris la tangente.
Oui, parce que mon frère est né, qui a deux ans de plus que moi, tout de suite a suivi les traces universitaires. Voilà, c'était pas forcément un élève très brillant, excuse-moi François, de le dire, mais il savait quand même, voilà, il savait poursuivre ses études et moi je l'ai poursuivi, mais je l'ai rattrapé pas, comme on dit. Donc j'avais du mal et j'ai vite compris que en sortant une connerie, en ayant un peu d'humour, je me faisais remarquer, je faisais rire mon père, qui était content de... Voilà, celui-là, alors.
Voilà, vous parveniez à le dérider.
Voilà, oui, mais il aimait bien. Non, mais il aimait bien l'humour aussi. Il pratiquait l'humour, mais un humour très intellectuel, tu vois, avec des jeux de mots où je ne comprenais rien. Mais moi, je faisais plutôt le pitre. Mais quand même, j'avais un regard, aimant et bienveillant. Dans ces moments-là, quoi.
Alors, vous évoquez votre papa qui était un intello, un cérébral, à la maison, chez les Campan. La musique était une affaire sérieuse. J'ai dit que votre père jouait les partitions de Bach au piano. Ouais. Vos parents, par exemple, trouvaient Mozart un peu bavard par rapport à la puissance de Bach.
Je me souviens, donc, ma mère a dit ça une fois. Oui, Mozart, je trouve ça un peu bavard. Je crois.
Il y a trop de notes.
Il y a trop de notes, ce qu'avait dit, je ne sais plus qui. Voilà, ouais.
Donc j'imagine qu'on ne vous laissait pas vraiment regarder les émissions de variété quand vous étiez enfant.
Ah ouais, il fallait...
À part le grand échiquier.
Il fallait s'imposer, oui, le grand échiquier, on devait regarder parce qu'il y avait souvent Brassens, il y avait De Vos, il y avait... Voilà, puis de la musique classique aussi. Donc, non, en dehors de Bach, il y avait Point de Salut, c'est sûr.
Voilà, donc à 17 ans, Bernard Campan, vous êtes mis à jouer de la basse dans un groupe de rock et à hurler dans un micro votre rage de vivre. C'est ça ?
Alors, rage
vous
de vivre,
bon,
non, j'étais pas rebelle.
Vous étiez bon chanteur ou
non,
pas ?
Non, j'étais pas rebelle, vraiment. Non, j'ai jamais été un rebelle. Hein.
Non,
mais
c'était
par contre,
du rock soft.
Oui, avec les copains, on avait monté ce groupe. C'était vraiment des amis d'enfance. Et puis un jour, je joue un peu de guitare, l'autre s'y met. Et puis voilà, le petit frère faisait de la batterie. Et moi, vraiment, j'ai ressenti en chantant nos chansons qu'on écrivait, hein, notre répertoire, on faisait des reprises, mais c'était un autre répertoire, j'ai eu des sensations fortes que j'ai jamais eues vraiment au théâtre. Au théâtre, je trouve qu'on est...
Vraiment incroyable.
Il se passe quelque chose, mais on est dans un personnage, on est dans une structure, et là, il y a une liberté à l'intérieur de la chanson, où je pouvais être moi. Et ça m'a donné des émotions, des sensations que j'ai très fortes, que j'ai jamais retrouvées au théâtre.
Mais alors, les premières traces d'humour, les premières traces de cette capacité à faire rire les autres en faisant parfois peut-être déraper les situations, elles se sont manifestées comment, à quel âge ? Quel a été votre public ? C'était la cour de récré ?
Moi, je faisais beaucoup de canulars. Et je faisais des canulars en appelant le grand frère d'un copain, la mère d'un autre copain. Et après, je leur faisais écouter les cassettes. Donc, j'ai humilié comme ça autour de moi pas mal de copains.
Bon, vous avez carré. Alors, là, vraiment, changement de décor. Dans votre magnifique premier roman, Les Rêveurs, qui était autobiographique, vous révéliez appartenir à une famille haute en couleur. Hein. Du côté de votre maman, bon, c'était l'aristocratie vendéenne, avec ses codes, ses rituels. Du côté de votre papa, une famille de cheminots et de gardes-barrières. Le mélange des deux, en fait, a pulvérisé les codes pour donner... Alors, de votre côté, vraiment une famille post-68arde, néo-bohème, c'est ça ?
Oui, néo-bohème, je ne sais pas. En fait, c'était hors cadre. On va dire.
Carrément.
C'était, ouais, hors sol, hors cadre. Mon père était donc designer. On a eu une éducation artistique complètement extraordinaire en ce qui concerne l'art plastique. On allait dans des expos. Alors, on n'allait pas dans des musées italiens comme... passer notre enfance dans des musées italiens comme Bernard, mais plutôt dans des musées d'art moderne ou des potiers en Provence. On faisait des kilomètres de route pour aller voir un potier, un céramiste, sans manger. voilà. Et puis sinon, nous, on peignait le week-end, on installait des cadres partout, dans le couloir. On avait un grand couloir, on mettait de la musique à fond les ballons, plutôt du jazz que Bach, ou alors de la musique planante, genre Vangelis. Et on peignait là-dessus. Voilà, on n'a même pas nos chambres.
Ah oui, parce qu'il faut dire que... Bon, l'appartement, quand même, où vous avez grandi, il était assez singulier. Il était peint du sol au plafond en rouge.
Oui.
Alors, votre chambre, elle a été épargnée parce qu'elle était vert pomme. C'est vous qui aviez choisi.
Voilà, la couleur de votre chemise aujourd'hui.
Voilà, ça vient de la télé. Et donc, il y avait plein de masques africains, des masques d'ogon, kanaga, des tissus indiens. Il y avait un joyeux désordre dans lequel donc vous avez grandi avec un papa qui était un designer très, très réputé parce qu'il avait d'abord travaillé pour Pierre Cardin. Puis, il avait fondé sa propre boîte qui marchait très bien. Il dessinait aussi bien des lampes que des chenilles en forme de boule. Comme celle, par exemple, qu'avait acheté Gainsbourg, la fameuse...
Celle qui est dans le clip slogan.
Voilà.
Ouais, ouais, elle est vintage.
Baptisée Helium.
La chaîne Helium, ouais. C'est une chaîne qui est devenue très connue. Ouais, ouais.
Voilà.
Non, c'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de talent. Après, au niveau de l'éducation, c'était autre chose. C'est-à-dire que c'était, voilà, effectivement, 68 était passé par là. Il y avait une liberté totale. Mais du coup, pas de cadre. Et peut-être, c'est une de mes interprétations, peut-être que le fait de vouloir faire du théâtre... et du cinéma, c'est l'idée de retrouver un cadre. Il y a le cadre de scène, il y a le cadre quand on est filmé.
Parce que cette attention des parents...
Retrouver un cadre, peut-être.
Vous étiez en manque d'elle quand vous étiez enfant, adolescente. Vous avez grandi donc sans tuteur. Ils étaient peut-être trop préoccupés d'eux-mêmes pour...
Je ne sais pas, je ne le dirais pas comme ça.
Il y avait de l'amour, il y avait de la tendresse, bien évidemment.
Je l'ai bien raconté dans mon premier roman, dans Les Rêveurs. Ils cherchaient leur vérité. C'est passionnant aussi de voir ses parents chercher leur vérité et leur liberté. Et ça m'a donné aussi un grand désir de liberté et d'authenticité. Enfin, c'est une éducation qui n'est peut-être pas normative, mais qui m'a permis de chercher moi aussi ma liberté. Et d'ailleurs, avec mes enfants, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de jamais projeter sur eux quelque chose là où je les attends, où j'aimerais qu'ils aillent, mais de les laisser être ce qu'ils doivent être, quoi.
Alors, pendant, et vous l'avez effectivement raconté dans ce premier roman autobiographique, Les Rêveurs, pendant que vos parents semblaient être verrouillés dans leur vie assez inaccessible, vous, par exemple, à l'âge de 14 ans, vous avez fait une tentative de suicide. Mais à 14 ans, quand on avale soudain... tous les médicaments qu'on trouve dans l'armoire à pharmacie de l'appartement, c'est qu'on veut réellement en finir, c'est un appel au secours, c'était quoi ?
Je ne saurais pas le dire, mais c'est bien d'en parler parce que il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit « mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un reportage, un documentaire ?» Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se trouvent dans des situations de détresse aujourd'hui, au moment du Covid encore plus, voilà, et puis c'est un vrai sujet. En fait, la détresse des adolescents et voilà, c'est eux qui commettent malheureusement le plus de tentatives de suicide à cause de cet âge compliqué, quoi. Dolto le raconte très bien, c'est le complexe du homard. Le homard, il a une coquille quand il est bébé, puis il en a plus quand il devient adolescent, puis il en a une autre plus tard, mais il y a un endroit où il est nu. Bah ça, c'est l'adolescence. Donc c'est bien d'en parler. Et si j'ai un message à faire passer, c'est que ça passe. Les moments compliqués, les moments où tout est sombre, on a vraiment l'impression que ça ne changera plus, que tout est bloqué et que vous êtes enfoncé la tête sous l'eau, ça passe.
Alors vous dites ça passe, l'année suivante, vous n'aviez que 15 ans, donc, eh bien, vous avez voulu ouvrir, écrire toute seule un nouveau chapitre de votre jeune existence. Donc, vous avez demandé à aller vivre dans un petit studio, toute seule, rue du Mel. Mais vous n'étiez pas du tout préparée à cette émancipation hâtive. D'ailleurs, vous écrivez, toujours dans votre roman Les Rêveurs, que j'ai relu avec grand plaisir.
Ah, mais c'est gentil. Mais je sais qu'on s'était vu à la sortie. J'avais été très touchée par votre première lecture. Je suis encore plus touchée par votre deuxième lecture, seconde lecture.
Et j'ai retrouvé cette phrase. En fait, soudain, à l'âge de 15 ans, j'étais employée à être le gardien de moi-même.
Oui. C'est-à-dire que, bah oui, j'avais peur la nuit, en fait, toute seule. Donc, c'était trop tôt. J'étais pas prête. Donc, je me le fais pour aller regarder s'il y avait personne derrière la porte. En réalité, ce dont je rêvais, c'était qu'il y ait quelqu'un derrière la porte.
Bien sûr. Bah, pourquoi vos parents vous ont-ils laissé partir
ainsi ? J'étais devenue une espèce de sentinelle de moi-même.
Voilà, la sentinelle de vous-même. Mais pourquoi vos parents, ils avaient si confiance en vous ? Ils ne pouvaient rien vous arriver ? Ils vous imaginaient forte ?
Ben, je devais l'être, sans doute. Enfin, les gens me décrivent souvent comme un mélange de force et de fragilité. De grande force et de... Je vois Bernard Opinet du chef.
Tout à fait. Oui, tout à
c'est
fait
vrai
ça. Ben oui, c'est ce paradoxe, Isabelle. Vulnérabilité et force en même temps. C'est
comme
très,
ça qu'elle
très étonnant.
Avance.
Ah ouais.
Alors, on fait une pause très courte. Et on se retrouve dans quelques instants en compagnie d'Isabelle Carré et Bernard Campan.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
C'est une comédie feel-good, spirituelle, émouvante, formidablement troussée et aussi formidablement interprétée par mes invités Isabelle Carré et Bernard Campan. Voilà, qui se joue en ce moment au Théâtre de la Renaissance, à Paris, et qui a pour titre La Dégustation. Bon, alors, Marivaux disait « Les acteurs font semblant de faire semblant ». C'est votre sentiment à tous les deux ?
On ne fait pas semblant de s'aimer beaucoup, en tout cas.
Ben déjà, voilà, la double truc, là, j'ai du mal à cerner ce que c'est de faire semblant, de faire semblant.
Faire semblant, de faire semblant, c'est, oui, faire croire qu'on joue, et en fait, on ne joue pas. On ne joue pas, on est dans une vérité. Même si c'est... Moi, vraiment, c'est une citation que j'adore, parce que les gens ne le savent pas, mais, ou peut-être un peu quand même... On ne choisit pas les rôles par hasard, on les choisit parce qu'ils ont des échos qui résonnent et que vous pouvez y mettre des choses très intimes.
Alors, Isabelle Carré, Bernard Campan, ils sont si différents les chemins par lesquels vous êtes arrivés à la même passion, monter sur scène et jouer. Mais pourtant, on va découvrir plein de choses justement au fil de cette conversation. Bernard, c'est votre maman, paraît-il, qui vous a inscrit de force au cours Simon. Le cours Simon plutôt que partir à l'aventure, découvrir le monde, c'est ça ?
Oui.
Et le premier qui vous a dit « Toi, t'as vraiment du talent ». Ben c'est Didier
Personne.
Bourdon.
Ah oui, d'accord. Si.
C'est Didier Bourdon. Au cours Simon, non. Au cours Simon, il paraît que.
Non,
on vous a dit, il va falloir attendre, hein, parce que vous n'avez pas franchement.
Non, c'était j'avais auditionné chez Florent. C'est Florent qui m'avait dit ça. Il dit ouais, il y a quelque chose, mais il va falloir que tu prennes. T'es ni un jeune premier, ni un valet. Voilà, il va falloir un peu de maturité pour trouver ta place. Et voilà. Mais c'est Didier, oui, qui m'a aidé à une période où j'étais vraiment un peu. Dans le creux, quoi, avec une sorte de dépression, je devais faire d'ailleurs avec le recul, j'imagine.
Vous vous demandiez pourquoi réellement vous étiez fait ?
Oui, voilà. Qu'est-ce que je pensais que j'avais aucun talent pour jouer. Et donc, c'est Didier qui m'a dit non, mais t'as autant de talent que les autres. C'était chez Bouvard, autant de talent que les autres, sinon plus, un truc comme ça. Et donc, tu vas jouer, tu vas pas faire que écrire les sketchs qu'on jouait, mais tu vas les jouer aussi. Parce que je voulais me réfugier derrière l'écriture des sketchs. Enfin, bon.
Ingrid, est-ce que tu baises ?
Oh là ! Jean-Pierre, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure.
Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur ?
Je l'attendais, celle-là.
Bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein.
Je sais pas comment te dire ce que je veux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime.
Vachement beaucoup.
C'est toi que je t'aime.
Vachement beaucoup.
Solidarité avec la CGT.
Bah Manu, tu descends.
Stéphanie de Monaco.
Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Salut, tu vas bien? Salut, tu vas bien?
Est-ce que, parce que on connaît tous bien évidemment l'aventure absolument fabuleuse des Inconnus, mais vous, votre préférence était écrire des sketchs. Je me demande si dans cette aventure des Inconnus, celui qui avait le moins d'ego, c'était pas vous, Bernard Campan.
En tout cas, ma préférence, c'était pas d'écrire, hein, c'était mon refuge.
Ah, c'était le refuge.
Ça me semblait être la seule solution pour continuer à faire ce métier. Est-ce que c'était que ce métier, j'en savais trop rien. Et voilà, de trouver ma place, il fallait que j'écrive. Mais pareil, sur l'écriture, je me disais, c'est pareil, c'est de la... qu'on appelle ça...
Vous aviez le sentiment d'imposture. Voilà.
Moi, j'ai le sentiment d'imposture. Oui, mais beaucoup de comédiens ont ça. Hein. C'est une maladie très partagée.
Ça fait longtemps que c'est fini.
Ça, c'est la petite voix qui est là, qui le dit, et j'y crois plus. Mais elle est toujours là, la voix. Ouais.
Oui,
je crois, non. Moi, je pense que quand on est blessé, même si on a cicatrisé, la cicatrice est là. Mais la cicatrice, elle fait plus mal. Mais elle est là.
Bon, connaître la gloire à trois, donc avec Didier Bourdon et Pascal Légitimus, c'est pas comme découvrir la célébrité seule. On fait partie d'une entité. On se demande quelle part on a dans le succès.
Oui. Bah oui, mais bon, moi, la réponse, elle était toute trouvée.
Moi, surtout vous.
J'avais la chance d'avoir trouvé ma place. Personne ne voyait que... Voilà, que je...
Ah, vous aviez le sentiment d'être un peu caché derrière.
Bah
derrière
oui,
Didier, derrière
toujours.
Pascal.
Oui, bien sûr. Oui, ça a été longtemps. Quoi. Mais c'était bizarre parce qu'en même temps, je ne m'en rendais pas trop compte. C'était un tourbillon aussi, les Inconnus. Donc
oui.
J'étais heureux aussi de tous les moments qu'on a partagés, les moments sur scène, tout ça. C'était les prix qu'on a eus, enfin tout ça. J'ai savouré quand même tout ça. Mais bon, j'étais comme pas vraiment au même niveau, quoi.
Alors, tour des manèges, Télémagouille, Stéphanie de Monaco, Perdu de Recherche, Neuilly, Auteuil, Passy, tout ça. Vous l'avez écrit ensemble et signé ensemble, tous les trois?
Oui, on signait tout à trois, oui. Oui, mais on travaillait vraiment à trois. Il y avait vraiment, avant chaque émission, par exemple, on partait chez Didier. Il avait une petite maison, je ne sais pas s'il l'a toujours, là, près de Soissons, et on partait 3-4 jours pour lâcher toutes les idées qui pouvaient nous traverser. Voilà, on notait, et tout ça, toute cette matière était accumulée à trois. Et vraiment, on passait du très bon temps ensemble. On rigolait quand on dormait les trois dans le grenier chez Didier. C'était même pas chauffé à l'époque et tout. Enfin, on était comme des gamins, quoi. Donc tout ce que faisait à trois. Après, pour ce qui était de rédiger, plus précisément, ou de structurer, c'était plutôt Didier et moi.
Alors, officiellement, Bernard Campan, les sketchs des Inconnus ont fait 750 millions de vues sur Internet depuis que vous êtes séparés. Non mais c'est digne du Guinness Book. 750 millions de vues sur Internet depuis la séparation. Et je rappelle que les films des Inconnus ont comptabilisé 17 millions d'entrées.
Oui. J'adore parce qu'on aligne les milieux et Bernard...
Lui, il les découvre. Il découvre les chiffres.
Ah bon,
c'est formidable.
Bah, pourtant, j'aime bien comptabiliser parfois. Quand je fais mes longueurs en piscine, je comptabilise les kilomètres que je fais. Mais là,
pas les entrées, pas les chiffres. Mais... Bon, ah. Il ne faut pas toucher à l'alchimie miraculeuse du passé. Reformer les Inconnus, ça serait peut-être au détriment de ce que vous projetez dans l'avenir. Parce qu'on sait que c'est vous qui rechignez un petit peu, vous freinez un peu. On vous parle tout le temps de la reformation. Mais c'était tellement magistral dans le passé que...
Il y a deux chemins que ça serait bien d'y retourner, ou au contraire, non, vaut mieux laisser le côté magique et pas y toucher. Donc voilà, il y a deux.
Donc vous êtes pour laisser le côté magique et pas y toucher.
Non, mais on a quand même des
petits rendez-vous.
Des petits rendez-vous, ça va se refaire, mais différemment.
Bon, vous, Isabelle Carré, vous faites incroyablement juvénile. Vous avez vraiment un visage angélique, mais vos rôles, eux, ils peuvent être parfois très sombres et dramatiques. Vous n'avez pas hésité, par exemple, à jouer une junkie dans le film de Ozon, Le Refuge, alors que vous étiez enceinte de 8 mois. Et puis récemment, vous étiez dans Au Sud, un film sur les migrants de Catane, en Sicile. Et le tournage de Maman est folle, par exemple, qui se déroulait dans la jungle de Calais, a été aussi pour vous une expérience très forte. Donc, ce visage si doux qui est le vôtre, il ne vous empêche pas d'être vraiment une intranquille. Vous êtes une intranquille dans la vie?
Quand même, je me sens plus tranquillisée que la petite jeune fille dont on parlait, là, qui devait canaliser ses émotions. Non, je pense que, encore une fois, si l'âge a vraiment me fait énormément de bien. énormément. Et l'écriture aussi, beaucoup.
Alors, toutes ces vies que vous avez expérimentées grâce au cinéma, par exemple, vous avez été Sœur Marguerite, parlant la langue des signes pour entrer en contact avec une fillette sourde et aveugle dans le film Marie Hurtin. Voilà, toutes ces vies de cinéma, elles vous ont appris en réalité beaucoup sur vous. Vous vous êtes surprise à vous dire...
Bah, ça me donne du courage,
serai...
en fait.
Et ça vous donne du
courage. Oui, je pense par exemple au film que vous citiez au Sud, que j'ai tourné donc au mois de juillet. Ce tournage était extrêmement heureux, avec beaucoup d'acteurs voilà, allemands, italiens, canadiens. Et mon personnage était un personnage très libre et courageux. Et ça m'a donné du courage pour dans la vie, à un moment où j'en avais besoin. Oui, c'est vrai que les personnages, nous, on donne aux personnages, mais ils nous donnent aussi beaucoup. En fait, quand on joue, c'est comme une espèce d'essai pour dans la vie, quoi. Et j'ai été maman au cinéma avant d'être maman dans la vie. J'avais très peur d'être maman dans la vie grâce peut-être à ces essais. Plusieurs essais que j'ai fait juste avant au cinéma, bah, ça m'a donné la force d'être maman, enfin la confiance plutôt d'être maman dans la vraie vie. Oui, c'est vrai que on est très privilégiés, les acteurs. Très privilégiés.
Et puis un jour, enfin, Isabelle et Bernard, vous êtes rencontrés, alors vraiment sur un bijou de film, Se souvenir des belles choses, signé Zabou Breitman. Voilà, un film qui a remporté le César de la première œuvre. C'était votre premier rôle dramatique, Bernard Campan. Et Zabou Breitman a eu du nez, en fait, elle a eu du nez et puis de l'audace. Parce que c'est elle qui a deviné vos fêlures avant tout le monde. Elle a été la première à avoir eu...
C'est ça, elle a eu cette intuition que je pouvais être ce personnage. Il lui fallait en fait un comédien qui n'était pas usé au cinéma, c'était mon cas, mais qui quand même pouvait avoir un nom. Quoi. Voilà, c'était aussi mon cas. Donc, elle a vu juste et surtout, elle m'a porté parce que là aussi, hein, je me retrouvais dans... J'étais toujours avec ce manque de confiance, incapable de... Et c'est elle qui m'a dit tu vas le faire, un peu comme ma mère d'ailleurs m'a dit tu vas faire les cours Simon. Elle m'a dit non, tu vas le faire le film, fais-moi confiance, tu peux le jouer. Voilà, tu peux le... Ah bon, d'accord, bah alors si tu le dis.
On retrouve tout de suite Isabelle Carré et Bernard Campan.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Isabelle Carré, Bernard Campan. Bon, cette émission a pour titre Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Or, parmi toutes vos vies, Isabelle Carré, vos vies de cinéma et puis la vie vraie, intime, il en est une qui vous vole pas mal de votre temps, c'est la vie de romancière. Alors on a évoqué ce fameux premier roman donc qui est paru en 2018, Les Rêveurs, un roman qui a été à la fois un grand succès de librairie et puis très salué par la critique. Vous l'avez lu, Bernard ?
Oui, bien sûr.
Les
deux, d'ailleurs.
Les deux. Et puis ensuite,
Indiens,
du côté des Indiens.
Oui, ouais, ouais, les deux, non, j'ai adoré. Ouais, ouais.
Et vous avez adoré.
Je suis très, très, très admiratif. Très fier de côtoyer Isabelle.
C'est parce qu'il était obligé de le lire aussi le deuxième, parce qu'il m'a vu écrire pendant des après-midi entiers dans la loge.
Ouais. Ah, c'est vrai.
Ouais, quand elle a une demi-heure, Isabelle, elle est contente. Elle a une demi-heure devant elle. Elle dit chouette, je vais pouvoir écrire. Moi, ça me fascine parce que je ne fonctionne pas comme ça. Mais voilà.
Et vous arrivez à cette concentration, ce lâcher prise. Vous êtes dans le ventre
musique.
D'un théâtre. Ah, vous écrivez en musique.
Voilà, et ça m'isole. Et puis oui, je trouve que la loge, c'est vraiment l'endroit idéal. Autant j'aime pas du tout y rester pour me concentrer, pour jouer. Ça
oui.
m'angoisse. Autant le calme de la loge, comme un sas, comme ça, à l'abri du monde, pour écrire, c'est merveilleux. Mais c'est les vies que je préfère, en fait. On dit, vous dites, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Là, j'ai mes trois vies quand je joue au théâtre.
Alors,
j'ai ma vie de maman, ma vie d'écrivain quand j'écris dans la loge. Et puis après, le soir, je joue ma vie d'actrice.
Et il y aura sûrement, sans doute, une quatrième vie, Isabelle Carré, puisqu'il paraît que vous avez le désir de réaliser votre premier film. Ça vous taraude, ça ?
Ça me travaille, mais on peut en parler pour Bernard, qui va sortir son film que j'ai vu.
Mais oui, mais on va parler du film.
Qui s'appelle Presque.
Presque.
Et que j'ai tellement adoré, tellement aimé. Je pense que ça va cartonner, parce que ça fait tellement de bien. Et c'est très, 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 très émouvant.
Alors,
sur son amitié avec Alexandre Jolien.
Voilà, on va parler de Presque, qui va sortir l'année prochaine, n'est-ce pas ?
En janvier.
En janvier, mais avant Bernard Campan. Ce deuxième film, on va le découvrir là très bientôt. Je voudrais savoir ce que vous diriez à Isabelle, qui vous semble essentiel avant qu'elle ne se lance dans un nouveau chapitre de sa vie, réaliser un film. Vous qui en êtes à la deuxième réalisation.
Ce que je conseillerais à Isabelle, c'est de ne pas écouter mes conseils. Voilà. De faire vraiment comme elle a envie de faire, et ça sera toujours mieux que tout ce que je pourrais lui dire. Mais par contre, qu'elle n'hésite pas à en parler avec moi, je serais ravi d'en parler avec elle.
Mais alors, ce film qui va sortir, et qui a pour titre Presque, vous l'avez vu, donc oui. Monté, vous l'avez vu, c'était une projection privée.
Oui. Une projection que Bernard a eu la gentillesse de faire pour tous les acteurs de la dégustation. Et on était tous ensemble, et avec Yvan Calberac, avec les autres acteurs, Olivier, Mounir, Eric, Kelly, l'assistante aussi, il y avait tout le monde. Et on a été tous aussi bouleversés et admiratifs, en fait, de la beauté de l'image, du jeu des acteurs, de ce que raconte le film. En fait, c'est un film qu'on voudrait... avoir chez soi et revoir régulièrement et mettre sur pause.
Quand on a un petit peu de blues, par exemple, et là, on se sent ragaillardi, rechargé.
En fait, c'est pas un film didactique, mais c'est un film qui donne plein de clés avec plein de phrases qui font du bien.
Alors, ce film, c'est un road movie, une espèce de road movie qui démarre sur un coup de tête avec un duo absolument improbable. Et dans ce film, vous avez entraîné, dans l'aventure de ce film, peut-être... celui qui est votre ami le plus précieux, le philosophe Alexandre Jolien. C'est ça, Bernard Campan?
Oui, enfin, il m'a entraîné aussi. On s'est entraîné l'un et l'autre. C'est notre histoire d'amitié qui se concrétise peut-être pas, mais enfin, qui se traduit là comme ça, à l'image, avec ce scénario. Voilà, ça a été une longue histoire pour faire ce film. Et voilà, aujourd'hui...
On peut en savoir un tout petit peu plus sur juste le début du film? Le départ.
Le départ, c'est un croque-mort, un directeur de pompe funèbre qui découvre, enfin voilà, qui va s'occuper d'un cadavre d'une vieille dame, et on sent bien qu'il y a un rapport avec cette dame. Il choisit donc de l'emmener lui-même à l'autre bout de la France, et va s'imposer un homme qui s'appelle Igor, joué par Alexandre, qui est un homme féru de philosophie mais handicapé, et qui vit un peu en solitaire, coupé de tous liens sociaux finalement. Et ces deux-là qui sont en fait deux solitudes vont apprendre l'un de l'autre. La philosophie un peu théorique d'Igor va se concrétiser à travers les rencontres, et voilà, les deux vont vers plus de légèreté, de liberté, quoi.
Tous les deux, Isabelle Carré et Bernard Campan, vous appartenez à la même famille, parce qu'en fait vous avez la même exigence a priori. Vos parcours sont très très différents, mais vous vous ressemblez, en fait. Je trouve que vous êtes dans une catégorie d'acteurs qui définit une certaine famille dans ce métier.
C'est ce que nous avait dit quand on avait fait le journal télévisé. Il nous avait dit ça, qu'on avait vraiment des points en commun, une même façon de voir les choses, en tout cas en apparence après, je ne sais pas. Mais moi, je me sens très très proche de Bernard, oui, très proche. Pas seulement grâce à notre amitié, mais grâce à des choses que je perçois chez lui et qui me font penser à des choses qui m'habitent aussi, c'est sûr.
Même parfois, on parlait d'un aspect un peu fraternel, un peu frère et sœur. Il y a un petit côté, il y a une grosse différence d'âge, mais on a un côté, je trouve, assez fraternel l'un et l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre.
Est-ce que vos enfants réciproques sont venus vous voir jouer la dégustation?
Bien sûr, j'étais là dimanche dernier.
Oui. Alors j'étais là dimanche dernier, donc vous aviez, il y avait la tribu de l'un et de l'autre qui était dans la salle.
Ah oui. Ils adorent venir régulièrement. Ils aiment aussi venir en coulisses.
Ouais.
Rester en coulisses le dimanche. Le dimanche, c'est la journée où il y a beaucoup d'enfants dans le théâtre. Et je trouve ça très joyeux. Et j'ai la chance de ne pas avoir besoin de me concentrer. Et mes partenaires aussi sont très ouverts. Donc il y a les enfants un peu partout dans les coulisses. C'est assez sympa.
Mais c'est incroyable. Parce que est-ce qu'on a une grille de lecture particulière quand on sait que ces enfants sont présents, ils sont là, ils courent en coulisses ou ils sont dans la salle? On joue différemment.
Je vais vous révéler un petit secret, c'est que juste avant de jouer, on se réunit un peu. C'est un exercice un peu à la Peter Brook. On fait un cercle comme ça, on se tient comme une équipe de foot. Et quand mes enfants sont là, je dis vous jouez bien, il y a mes enfants. Mais pour rassurer le public, on se dit tous les soirs quelque chose pour bien jouer.
Ouais. Alors puisqu'on a parler d'enfants, Isabelle Carré, bah, votre prochain livre, La Mère, alors M-E-R, dans son jardin, leur sera adressé. Je voudrais que vous nous en disiez un tout petit peu plus.
Alors, il devait sortir pour Noël, mais l'illustratrice Kasia a finalement pris un petit peu plus de temps, donc ça sera plutôt pour le printemps. Ça s'appelle La Mère dans son jardin et ça parle de la mère M-E-R et de la mère maman. Et de la difficulté de trouver sa place quand il y a un petit frère qui arrive, et aussi des changements de vie, du déménagement, tout ça. Et c'est aussi le sujet de mon troisième roman qui est en peaufinage et qui parle des changements de vie et du champ des possibles, de la difficulté à faire des choix dans sa vie.
Bon, il est cruel le chrono parce qu'il va falloir hélas nous quitter. Mais alors, juste avant, j'aimerais savoir. Bon, cette pièce, La Dégustation, elle provoque vraiment une sorte de douce ivresse. Quel est pour chacun de vous le vin magique qui vous offre la félicité? Le vin vraiment à boire avec quelqu'un qu'on aime, Isabelle.
Bon, alors j'adore le Saint-Julien.
Oui.
Bechevel ou Léoville-Lascaz. Mais alors ça, c'est vraiment dans des occasions de dingue. Parce que voilà, c'est pas donné quand même. Et sinon, j'aime beaucoup aussi l'Anine. Qui est un vin d'un producteur, petit producteur de Jean-Baptiste Sénat. Voilà, j'aime beaucoup ces vins-là, biodynamie.
Biodynamie. Et Bernard Campan ?
Moi, j'ai toujours préféré, même si j'ai bu des grands Bourgognes, et vraiment, je me suis régalé avec des grands Bourgognes, mais j'ai toujours préféré les Bordeaux.
Ouais.
Dans mes plus grands souvenirs, c'est le Linge Bage, un Linge Bage qui a été magnifique, c'était un 89, mais il y a longtemps. Et puis, bon, oui, les Pessac, les Oignons, enfin voilà, vraiment les Bordeaux, quoi, les Bordeaux, j'adore.
Les belles références. Bon, allez, un conseil d'amis, vraiment, vous l'avez compris. Il faut courir au Théâtre de la Renaissance à Paris, voir La Dégustation avec Mounir Amamra, avec Olivier Claverie, Éric Viellard, et puis bien sûr, avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Merci infiniment
merci
à tous les deux.
Merci.